Bienvenue à l'investissement décomplexé. Je m'appelle Raymond Kerzirou et je suis directeur de la recherche avec PWL Capital. Dans l'épisode qui suit, que mes collègues François Doyon-Larochelle, James Parkin et moi-même avons enregistré avant le début de la crise de la COVID, nous poursuivons la série « Réponses à vos questions » entreprise lors de l'épisode d'il y a deux semaines. Aujourd'hui, deux sujets au programme. Les actions valeurs peuvent-elles augmenter le rendement espéré de votre portefeuille? Et les obligations à rendement réel, comment fonctionnent-elles, quels en sont les avantages et inconvénients et comment y investir? Bon épisode! Bon, alors, première question. Je suis un investisseur passif et indiciel. Un récent article publié par MoneySense suggère qu'un investisseur rationnel qui met en application la stratégie valeur peut battre le marché. Qu'en pensez-vous?
Ben, écoute, Raymond, c'est une excellente question. En fait, je l'aime beaucoup parce que c'est un sujet qui m'a souvent frappé comme nécessitant une explication et une clarification. Donc, merci à Mathieu, notre auditeur, qui nous pose la question. Bon, première des choses, l'auteur de l'article, c'est un nommé Georges Athanasakos. Il est professeur à une des plus grandes universités, les plus prestigieuses écoles des sciences de la gestion, à l'école Richard Ivey School of Business, Western University, en Ontario. Il détient la chaire Ben Graham in Value Investing. Bon, il faut aussi noter que ce professeur très respecté a écrit souvent au fil des années des articles qui ont été publiés dans le cahier des affaires du Globe and Mail, le plus grand, le plus prestigieux journal écrit au Canada anglais. Ben Graham, c'est une des sommités dans le domaine du placement au niveau de la formation pour les gestionnaires actifs. Il a été auteur d'un...
On parle de quelqu'un qui est mort, là. Ben Graham, celui qui dont la chaire porte le nom. C'est quelqu'un qui est mort depuis longtemps.
C'est un investisseur, économiste et professeur d'origine britannique et qui a surtout travaillé aux États-Unis. Il a été auteur avec David Dodd d'un livre qu'on peut appeler un classique de tous les temps, Security Analysis, et il a été d'une énorme influence pour un des grands investisseurs que tout le monde connaît, Warren Buffett.
On dit même qu'il a été le mentor de Buffett.
Hein? Oui. Alors, ça fait longtemps qu'il est décédé. En fait, en 1976, il est décédé en France, selon Wikipédia. Il a aussi écrit un livre plus facile à aborder parce que Security Analysis, un livre que j'ai lu là, il y a très longtemps, là, c'est une grosse brique. Ça ressemble à une grosse Bible. Là. C'est vraiment un classique, si on veut, dans l'analyse pour l'évaluation d'une compagnie.
Donc, ce qu'on appelle l'analyse fondamentale.
Tout à fait. C'est exactement le terme qu'il faut utiliser.
Un peu plus près du stock picking que de la gestion initiale.
Ce serait le père du stock picking.
Oui, exact.
Puis si on suit la pensée des gens, des adeptes de la philosophie de Graham and Dodd, c'est qu'il y a une notion d'évaluer une compagnie et pour savoir comment est-ce qu'elle vaut réellement. Donc, le prix que cette compagnie-là vaut, et si l'action se transige en bourse en bas du prix que je pense que ça vaut, mais c'est le temps d'acheter parce que le marché n'est pas efficace, il ne reconnaît pas sa vraie valeur.
D'accord.
Puis quand ils font cette analyse-là, ils cherchent ce qu'on appelle une marge de sécurité, margin of safety. D'ailleurs, on veut des compagnies qui ont des produits qui sont imbattables. On pense à Warren Buffett quand il a investi dans des sociétés comme
Coca-Cola
ou Gillette avec les rasoirs qui fait maintenant partie d'un autre conglomérat de biens de consommation. Mais ces produits-là, c'est Coke, it's the real thing. C'est pas remplacé. Je veux un Coke, c'est un Coke, c'est pas un Pepsi, c'est pas autre chose. Fait que si on investit dans de telles compagnies puis on les achète à des bons prix, Et ils ont des très bons management et ils ont une discipline de gestion financière impeccable, bien, ça va me donner des bons rendements à long terme. Et c'est ça mon objectif, c'est d'accumuler un panier d'actions de compagnies de très, très grande qualité.
Donc là, je vais t'arrêter parce que là, tu nous as donné, si je comprends bien, c'est que la définition d'action-valeur qui est proposée dans cet article-là, c'est une définition traditionnelle qui date des années 1930. On va vérifier les fondamentaux de la compagnie. Oui. On veut investir dans des compagnies de qualité et payer pas trop cher. Or, quand notre auditeur Mathieu dit qu'il est un investisseur indiciel, quand on peut aussi investir via la gestion indicielle dans des indices dits valeurs, est-ce que ça veut dire la même chose?
Je vais prendre la parole un peu, James, parce que l'auditeur nous demande si on est en accord avec l'article. Donc, avec ce que James vient de mentionner, que ça, c'est pour du « stock picking », si on veut, entre guillemets, que ce professeur-là propose une stratégie valeur, bien, moi, je suis un peu en désaccord avec ça. Nous, on a de la philosophie ici chez PWL d'avoir des titres ou d'un panier de titres bien diversifiés avec une prépondérance vers les titres de valeur et les titres de petite capitalisation. Dans ce sens-là, avec un panier très diversifié d'actions valeur, je suis d'accord qu'on peut, à long terme, avoir des rendements qui sont supérieurs à celui du marché ou du moins qu'au titre de croissance.
Et nous, pour nous, comment est-ce qu'on définit une compagnie de valeur? N'a rien à voir avec la méthodologie d'analyse fondamentale de Graham & Dodd. Ça suit plutôt la méthodologie de Fama French, Fama qui a gagné un prix Nobel en 2013, qui est l'effet valeur qu'on achète des compagnies qui sont high book to market. Ouais. Fait que c'est leur discipline de définition de c'est quoi une compagnie de valeur.
Qu'est-ce que ça veut dire, ce high book to market?
Court valeur au livre, valeur comptable qui est basse.
Donc, autrement dit, il faut que le prix de l'action soit pas cher comparativement à la valeur au livre. Donc, l'évaluation selon les comptables de l'action.
Exactement.
J'ai peut-être dit tantôt high book to market, je voulais dire low.
Ben, ça revient au même, là, c'est la réciproque. Là.
Alors, dans l'article, dans le premier paragraphe, professeur Athanasakos dit que les investisseurs aujourd'hui achètent une façon naïve d'investir dans des compagnies dites de valeur parce que ça présume qu'on va tout acheter des actions qui sont à bas prix. Si on perd cette notion, mais c'est vraiment pas ce qui se passe dans les faits. Quand on achète des compagnies de valeur, c'est un panier de compagnies diversifiées, mais qui respectent les normes d'analyse quantitative élaborées par le professeur Fama et French. Et donc, pour nous, c'est pas une question de marge de sécurité, c'est une question que c'est une prime de risque. Puis lui, dans son article, il dit tout à fait le contraire, que c'est pas une prime de risque. Il dit quasiment, mais pas dans ses mots, que c'est le marché qui est inefficace, puis il parle des erreurs de comportement d'investisseurs, que, bon, bien, la valeur, elle va sous-performer à long terme.
Donc, c'est une philosophie complètement différente, oui. La philosophie du professeur Athanasakos.
Tout à fait, puis ce qu'il dit, sa thèse, sa conclusion, c'est que si on achète un panier restreint de compagnies, donc on n'est pas surdiversifié, qu'on a des plus fortes chances à battre le marché. Mais oui, c'est arithmétiquement vrai. Si, comme il dit dans son article, on a presque autant d'actions que le marché, plus on en a, en fait, dans notre portefeuille, plus on est, entre guillemets, un « closet indexer » ou quelqu'un qui ressemble à l'indice, fait qu'il va le suivre. Alors, pour moi, c'est vraiment une vieille école de pensée et c'est une commodité de rare. C'est pas impossible. On a toujours dit, l'évidence, c'est que le passif va être gagnant à long terme, mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas des gestionnaires actifs qui réussiront pas à battre le marché. Au contraire, il va statistiquement, il devrait avoir 25 % des gestionnaires qui battent les marchés selon le concept du pile ou face.
Oui, sur des courtes périodes. Oui. Sur des courtes périodes.
Et par conséquent, puis on prend un exemple, des Warren Buffett. Comment ça se fait qu'il n'y en a pas plus des Warren Buffett? Bien, c'est justement parce que c'est très, très difficile de répliquer ce qu'il fait. Et donc, cette commodité rare, elle n'existe pas. Puis c'est surtout pas dans le domaine des placements collectifs qu'on a pu trouver ça, parce qu'il y a un grand nombre d'études qui ont prouvé que la vaste majorité des gestionnaires actifs par fonds communs n'ont pas battu les indices de référence.
Donc, je pense que François,
Moi, je vais ajouter parce que je veux répondre à Mathieu. Puis Mathieu me demande, je suis passif et je suis indiciel. Oui, si on investit dans un outil passif indiciel avec des titres de valeur, je pense qu'à long terme, on peut battre.
Par exemple, je sais que ce n'est pas une recommandation, c'est juste une observation. Aux États-Unis, il existe un FNB du S&P 500 valeur.
Oui, puis on peut aller Russell 3000 valeur.
Ils vont prendre parmi les 500 titres, ils vont déterminer une sous-catégorie ou un échantillon de titres. Ça va peut-être être 200 ou 300 titres qui ont des caractéristiques valeurs, puis ils vont faire un sous-indice avec ça.
Puis comme James l'a mentionné, c'est une prime de risque. Donc, à long terme, on s'attend à avoir un rendement supérieur à l'indice.
Puis j'aimerais ajouter, le long terme est très long parfois. Hein? Par exemple, dans les 10 ans.
Là, je vais parler des primes entre les titres de valeur et de croissance par le passé. Au-delà de 30 années, au Canada, c'est 2,6 % de rendement supplémentaire des titres de valeur versus les titres de croissance sur plus de 30 ans. Aux États-Unis, c'est 3,3 % À l'international, c'est 5 % Puis dans les pays émergents, c'est 3,7 % Donc, ce n'est pas juste localisé aux États-Unis qu'il existe une prime valeur, mais globalement. Il est vrai, comme tu as dit, Raymond, qu'il y a des périodes où les titres de valeur vont sous-performer les titres de croissance. On est notamment dans une de ces périodes-là. Ça fait au-delà de 12 ans que les titres de valeur ont sous-performé.
Aux États-Unis?
Aux États-Unis, les titres de croissance. Mais il peut s'effectuer un revirement de situation assez brusque là.
Mais ça prend une patience d'ange pour investir dans les actions valeurs.
Peut-être que ça vaudrait la peine qu'on explique pour Mathieu et nos autres auditeurs que c'est quoi la vision de Fama et French sur la notion de valeur, en guillemets. Si on pense que moi, je vais faire un prêt d'argent à une grande société dans le commerce au détail qui s'appelle Walmart, à la place, je vais aller prêter de l'argent à la compagnie de Béduton. Aux États-Unis, on aurait pu prendre JCPenney ou Sears Roebuck.
Une compagnie plus en difficulté.
Exact. Fait que si moi, je veux emprunter, ces compagnies-là ont besoin d'emprunter d'argent, je vais demander une prime de risque à qui? Parce que leur modèle, si moi je leur prête, j'ai un risque de ne pas me faire rembourser. Là. Fait que Sears, JCPenney, la compagnie Béduton, taux d'intérêt va être plus élevé. Que ce serait pour Walmart, qui a eu un modèle d'affaires qui est absolument killer au fil des années, qui fait qu'il est devenu le plus grand détaillant au monde. Si on se posait, on est d'accord qu'au niveau du coût en capital, c'est très technique au niveau de la finance, que le coût en capital de l'entreprise, c'est la moyenne de sa dette, ses obligations financières, et de son équité. Mais si moi, je dois m'attendre à avoir un meilleur rendement en prêtant à des compagnies qui sont moins solides que celui qui a un modèle d'affaires qui est plus solide, forcément, si j'investis dans les actions d'une compagnie qui est moins solide, je dois m'attendre à avoir un meilleur rendement. Risque et rendement sont reliés.
Ce que tu dis, c'est que la définition Fama French, c'est des compagnies plus risquées, peut-être plus endettées.
Tout à fait. Investir dans... sa thèse à lui, c'est l'inverse. Puis ça, c'est une thèse Graham and Dodd. Quand je trouve de la valeur
en guillemets. C'est la thèse du professeur
Athanasakos et qui est basée sur les théories de Graham and Dodd, qui fait que si moi, j'achète des compagnies, entre guillemets, dites de valeur, parce que j'ai analysé de façon fondamentale qu'elle vaut plus que le prix auquel elle se transige.
C'est pas du tout la même définition.
C'est pas la même définition. Okay. Puis, fait que. Mais logiquement, c'est accepté par tout le monde que le coût dans le capital, c'est la moyenne pondérée des deux, l'équité et les obligations. Fait que forcément, value, c'est une prime de risque. Fait que à moyen et long terme, il faut qu'elle me paye. Fait que Moi, je dois me faire... Ça doit rapporter une prime de risque parce qu'on investit dans un panier de compagnies qui sont, sur le plan économique, des affaires et des moins... ils ont moins... Les perspectives sont moins intéressantes. Et par conséquent, la bourse les boude. Les gens payent des multiples, des prix pour acheter ça qui sont plus bas par rapport à une compagnie de croissance où tout le monde s'emballe puis on a tendance à les payer à des prix plus chers. À long terme, le rendement sur des actions vont revenir au rendement espéré long terme de son coût en capital. Il y a un lien. C'est ce qui explique le fondamental du rendement, de la surperformance qu'on s'attendra à faire. Pendant, c'est pas garanti, comme François a très bien dit, on vit une période de 10 ans. Là, on ne l'a pas vu, la prime sur les placements de valeur. Puis dans notre dernier balado, on en a parlé, on l'a vu dans l'autre 10 ans, là, de 2000 à 2009.
Très bien. Donc, juste pour résumer, vous me corrigerez là, si je reflète mal ce que vous me dites. Mais oui, on peut acheter des paniers indiciels ou des FNB indiciels d'actions valeur. Il y en a sur les actions américaines. Il y en a aussi sur les actions canadiennes. Il y en a sur les actions internationales. Ça se fait. Est-ce que ça a des probabilités de surpasser le rendement général du marché? Oui. Est-ce que c'est facile? Mon commentaire personnel, non. Parce qu'il peut avoir des longues... Il faut être extrêmement patient. Il peut avoir des longues périodes où on a des rendements inférieurs au rendement général du marché.
C'est ça. Un autre point, Raymond, que je voudrais faire sur l'article, puis ça, je trouve ça un peu aberrant qu'un professeur d'université qui devrait savoir mieux, il a dit dans un commentaire que le recent study by BlackRock showed that while the average equity fund returned 8% over the last 30 years, individuals in these funds made only 2%. Mais là, il vient de nous prouver pourquoi les gens devraient investir de façon passive et pas d'essayer de transiger et prévoir l'avenir. Fait qu'il se contredit complètement quand les gens réalisent seulement 2 % au lieu de 8, bien, si on était géré de façon passive. Puis ça c'est, on ne prend pas un biais vers les valeurs pour avoir une surperformance par rapport au marché général. C'est simplement d'acheter le marché tel que défini par le S&P 500. Fait encore une fois, j'apprécie beaucoup de la part de Mathieu d'avoir soulevé la question.
Merci. Prochaine question. Je songe à investir dans les obligations à rendement réel en combinaison avec des CPG. Cette classe d'actifs est facile d'accès grâce à des FNB tels que XRB, qui est proposé par la firme iShares, et ZRR de BMO FNB. Qu'en pensez-vous? François, veux-tu commencer?
Oui, certainement. Ben oui, les obligations à rendement réel vont offrir une protection pour l'inflation aux détenteurs de l'obligation. Mais avant de commencer là, on va parler peut-être des obligations qui sont plus régulières, qui sont des titres d'emprunt normalement émises par les gouvernements ou par des grandes sociétés. Ratio peut-être 70 % gouvernement, le reste c'est sur l'indice canadien et le reste c'est des sociétés. Ça comporte une échéance, 2, 5, 10, jusqu'à 30 ans, et un coupon. Ça, c'est pour l'obligation régulière.
Le coupon, c'est l'intérêt.
C'est l'intérêt. Le taux d'intérêt sur l'obligation. Pour ce qui est de l'obligation à rendement réel, c'est émis par des gouvernements habituellement, gouvernement fédéral. Il y a certaines provinces, dont le Québec, l'Ontario et je pense le Manitoba, qui en ont ici.
Oui, mais c'est surtout le gouvernement
c'est
fédéral.
C'est surtout le gouvernement fédéral et aux États-Unis aussi, on peut en trouver. Avec les obligations à rendement réel, tu vas avoir un coupon qui va être plus bas, mais tu vas être compensé pour l'inflation dans le marché, l'inflation future. Donc, c'est ce qui va t'amener à te protéger pour l'inflation. Donc, l'inflation va être mesurée par les prix...
L'indice des prix à la consommation.
Merci, Raymond. Donc, quand tu achètes ton obligation à rendement réel, disons une valeur nominale de 1 000 avec un coupon de 3 % échéance dans 30 ans, il y a de l'inflation qui est cumulée mensuellement. Donc, le prix, la valeur nominale de ton obligation
est indexée à chaque mois.
Donc, à ton prochain paiement d'intérêt, si on veut, qui est fait aux 6 mois, tu vas recevoir la valeur nominale de ton obligation va être plus élevée et tu vas recevoir un intérêt qui va être plus élevé parce qu'il va être basé sur une valeur nominale qui va être plus élevée.
OK, d'accord. Mais je veux juste être sûr de bien comprendre pourquoi j'achèterais des obligations traditionnelles puisque les obligations à rendement réel me permettent de profiter de l'indexation au coût de la vie?
Bien, c'est l'inflation qui est anticipée au moment de la vente. Donc, quand on achète une obligation à rendement réel, on ne sait pas exactement quel va être le niveau d'inflation dans le futur. Donc, on prend un risque à ce niveau-là et on prend aussi un risque quand on achète une obligation à rendement ordinaire. On prend un risque sur l'inflation future également. Là.
Ouais.
Sauf qu'il y en a une qui s'ajuste avec l'inflation. Si moi, mon penchant, c'est de me protéger pour l'inflation, on est plus sécure un peu avec une obligation à rendement réel qu'une obligation régulière.
OK. Mais aussi, je pense que les obligations les obligations à rendement réel, ils paient un taux d'intérêt plus bas que les obligations régulières.
Oui, tout à fait. Ça, je l'ai mentionné tantôt. C'est exemple, si on prend une obligation 30 ans du gouvernement canadien régulière, va nous offrir un coupon de 3 % par exemple. La même obligation
à rendement réel.
À rendement réel du gouvernement fédéral va avoir un coupon de 1 %. Puis la différence entre les deux, c'est l'inflation qui est anticipée pour le long terme sur 30
Maintenant,
ans.
Maintenant, je comprends mieux. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme caractéristique? Donc, c'est émis par le gouvernement fédéral?
Effectivement, aux États-Unis, au Canada. Donc, aux États-Unis, ce n'est pas une obligation à rendement réel, on appelle ça un TIPS. T-I-P-S, comme acronyme. Le défi avec ces valeurs-là, c'est, un, la liquidité, parce qu'il y en a, beaucoup moins d'actions émises, beaucoup, beaucoup moins que les obligations traditionnelles.
Ouais.
Deuxièmement, c'est comment bien comprendre si le prix que je paye, c'est un prix raisonnable. Donc, c'est un instrument qui sert aussi aux économistes pour établir les expectatives d'inflation. Quand on met de la vraie argent en risque, on achète ces obligations-là, on fait un gage sur notre perspective de la valeur de l'inflation.
Donc, d'ailleurs, on en a parlé dans notre épisode sur comment estimer l'inflation future.
Donc, c'est sûr que nous, on n'a pas de boule de cristal. Donc, notre philosophie de placement, on accepte que la courbe de rendement actuelle comme étant le meilleur indicateur de la valeur dans le marché, mais celui le prix, pardon, de l'obligation à rendement réel, c'est en quelque sorte un gage sur le futur de l'inflation, mais l'inflation anticipée. Donc, quand les taux augmentent, cette obligation peut réagir à cette augmentation comme elle ne peut pas réagir au niveau du prix. C'est vraiment ce qui va affecter son prix, c'est la perspective sur les taux de rendement réel. Encore une fois, c'est très technique, mais il faut comprendre...
C'est quoi ça, les taux réels?
C'est les taux après inflation.
Donc, admettons que le taux d'intérêt sur un titre est de, on va dire un chiffre juste comme ça, le 4 % puis l'inflation est à 1 % donc le taux réel est 3 %
Tout à fait.
OK.
Mais c'est assez drôle parce que dépendant de la perspective des acheteurs et des vendeurs des obligations à rendement réel par rapport au taux de rendement réel, bien, ça peut ne pas protéger contre une augmentation brusque du taux d'inflation réel, du taux d'inflation actuellement vécu dans les marchés économiques.
Donc, ce que tu veux dire, c'est que s'il y a un changement modéré dans les taux d'inflation, est-ce qu'on est protégé avec une obligation à rendement réel?
Probablement que oui. Mais encore une fois, s'il y a des changements dans les expectatives des grands investisseurs qui achètent ça, grands investisseurs institutionnels, s'il y a des changements dans leur perspective des taux réels, mais peut-être que ça va être à contre-coup de ce changement-là, de l'intérêt nominal.
Donc, pour nos auditeurs, je pense que ce qu'ils peuvent retenir de ça, c'est que stratégiquement, les obligations à rendement réel fournissent une certaine protection contre l'inflation, mais ce n'est pas une protection qui est parfaite.
Tout à fait.
Oui. Parce que s'il y a des changements très importants dans les attentes d'inflation à très long terme, à ce moment-là, ces titres-là peuvent être réévalués assez en profondeur.
Encore une fois, nous, dans nos portefeuilles, c'est assez rare qu'on va acheter des obligations à rendement réel. Pour le long terme, on cherche le rendement, la croissance, la protection contre l'inflation avec les actions. Le portefeuille, la partie sécure, les obligations, on a tendance à prendre des échéances plus courtes.
Ouais.
On a tendance à des codes de
ça qualité. Ça aussi, ça protège en partie contre l'inflation.
Tout à fait, parce que si l'inflation se présente puis on réinvestit les obligations, les taux d'intérêt vont être plus élevés.
Mm.
S'il y a de l'inflation modérée, parce que les banques centrales font bien leur travail de gérer la masse monétaire et la politique monétaire, avec les actions, on va avoir une croissance qui vont aussi nous protéger.
Fait que
pour nous, si jamais on en achetait, on a tendance à privilégier les acheter dans le rire.
Notre auditeur, il parle des FNB, d'obligations à rendement réel. François, as-tu un point de vue là-dessus?
Oui, mais notre auditeur nous parlait du fonds de BMO avec le symbole ZRR ou le fonds iShares avec le symbole XRB. Donc, si on avait, nous, un acheté dans les portefeuilles, je pense qu'on pencherait un peu plus vers le symbole ZRR. Prime abord, les frais de gestion sont hyper importants dans cette classe d'actifs-là. C'est 27 points de base pour le ZRR versus 39 pour le XRB.
Donc, le BMO est beaucoup moins cher.
Beaucoup moins cher, 12 points de base.
Pour un produit essentiellement équivalent.
Essentiellement équivalent. Les fonds ont à peu près la même durée, ont les mêmes... je regardais la composante de titres de provinciaux et de fédéral, puis essentiellement à peu près 80-85% dans les deux cas, c'est des obligations à rendement réel du gouvernement fédéral. Donc, tu as le même risque essentiellement dans les deux cas. Donc, je vois pas pourquoi on paierait 12 points de base de plus pour avoir le fonds XRB.
Ouais.
Un détient, je pense, 8 titres, l'autre en détient 10. Mais comme j'ai dit, il y a 80-85%, c'est du gouvernement fédéral, c'est du pareil au même. Là. Donc, pour moi, j'irais pour le fonds ZRR.
D'accord. Peut-être une couple d'autres notes. Je regardais notre écran Bloomberg tout à l'heure, les taux sur les obligations, donc les taux d'intérêt ou ce qu'on appelle les yield to maturity, les rendements à échéance sur les obligations à rendement réel sont pour la plupart des titres dans le marché en ce moment négatif.
Oh, OK, oui.
Mais explique-nous donc, Raymond, ça veut dire quoi pour un investisseur qui achète ça quand c'est négatif? Ça veut dire que ça va perdre de la valeur dans le temps.
Ça veut dire que ça va te donner un rendement de l'inflation moins quelques centièmes de point de pourcentage à l'heure actuelle.
C'est assez...
Donc, c'est sûr que les obligations en général ont des taux très, très bas. Mais il faut moins savoir là, quand on investit là-dedans.
Bien, j'ai regardé, moi, à la fin février, là, les statistiques qui étaient données par BMO. Le rendement à échéance pour le panier d'obligations à rendement réel, ça, c'est au 29 février, ouais. Là, il y a quelques jours quand même, c'était de 0,10%.
Ouais.
Enlève à ça 27 points de base de frais. Tu tombes à moins 0,17% de rendement. Mais tu ajoutes à ça l'inflation. Disons une inflation de 2%. Donc, ton rendement pour l'année, si on a une inflation de 2%, serait 1,83%.
Oui, oui.
À peu près, là. Si je fais une mathématique, c'est rapide. Oui,
mais au moment où on se parle, les taux sur les obligations ont diminué encore plus, sont rendus négatifs. Donc, le chiffre que tu viens de nous donner nous donne une très bonne idée dans quoi on s'embarque, mais sauf que les chiffres sont même encore plus bas que ça.
Oui.
Oui. OK. Puis, dernière note pour notre auditeur ou nos auditeurs qui seraient intéressés à investir avec les obligations à rendement réel. Donc, effectivement, les FNB, ce serait, malgré que c'est plus cher, ce serait à privilégier parce qu'investir dans les obligations individuelles, ça va être du sport. Là. C'est très peu liquide et puis vous risquez de payer des commissions assez corsées. Donc, les FNB, oui, d'accord. Il faut être conscient que ça ne paiera pas des taux très importants. Troisièmement, ça donne une protection partielle contre l'inflation. Tant que l'inflation demeure modérée, OK, c'est beau, ça va, mais s'il y a vraiment des changements très, très importants dans les perspectives à long terme de l'inflation, vous pourriez avoir un choc important sur les prix. Puis quatrièmement, ces titres-là sont à réserver pour le REER ou le CELI. Ce n'est pas du tout conseillé pour les comptes taxables. Il y a de fortes importantes. On ne rentrera pas dans les technicalités, mais il y a d'importantes inefficacités fiscales avec les obligations à rendement réel. Si vous achetez un FNB d'obligations à rendement réel, ce n'est qu'un repackaging.
Oui.
Vous faites en même temps l'acquisition de toutes ces inefficiences fiscales-là. C'est tout pour cet épisode.
J'espère que vous avez pris plaisir à l'écouter. Merci à notre productrice Lise Delaplanche pour sa précieuse collaboration au montage. Merci aussi à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. L'investissement décomplexé fera relâche pour le restant du mois d'août et vous reviendra en septembre. Entre-temps, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions et idées de sujets pour animer nos épisodes de l'automne. Vous pouvez me joindre, comme d'habitude, via LinkedIn ou encore par courriel à raymondk@commercialpwlcapital.com. Sur ce, à bientôt et passez une belle fin d'été!